France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Mathilde Bosso. Déjà, je tenais à vous dire à quel point j'ai adoré votre livre. Il fait vraiment partie de ces romans où, quand je lis la première page, je sais que je vais adorer et que je vais avoir un coup de cœur. Et la suite m'a totalement convaincue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Du silence à la parole et inversement, aujourd'hui dans votre book club, un book club polar avec le dernier roman de Mathilde Bosso et le festival lyonnais Quai du Polar à l'horizon. Dans son livre, l'autrice use d'une pluralité de points de vue pour regarder une cité rennaise dans les poubelles de laquelle un bébé est retrouvé vivant, tandis que sa mère, toute jeune, gît dans son sang plus haut dans la tour et revisite le passé. L'enquête commence pour déterminer les causes de ce drame en déjouant le triangle habituel du policier coupable. Victime ici, ce sont les voix multiples qui comptent. La parole des femmes, si nombreuses victimes de violences, au présent comme au passé, est l'une des clés du suspense romanesque. Qui va pouvoir parler et quand ? La haine suscitée par la pratique des avortements clandestins, le tragique des maternités non désirées, la difficulté de transmission entre les générations. Le roman, comme la société, ne finit pas d'en mesurer les dégâts. Mathilde Bosso est notre invitée. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à tous et à toutes dans le Book Club. La colline, c'est le titre de votre roman, Mathilde Bosso. Il a paru aux éditions du Seuil dans la collection Noir. Bonjour, bienvenue dans le Book Club.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir et on peut signaler aussi la parution en poche de votre précédent roman, Les Saules, qui avait reçu le Grand Prix de littérature policière 2025. C'est chez Point. Bienvenue dans le Book Club. Vous serez à la librairie La Cédille, dans les Côtes d'Armor, à Lamballe. Cette ville. Le 14 avril, de 18h à 20h, pour une rencontre et un échange autour de votre livre. Mais avant cela, au festival Quai du Polar, et notamment le vendredi 3 avril, de 18h à 19h30, à la médiathèque du Tonkin, à Villeurbanne, ensuite à Lyon, dans le cadre de ce grand festival, où vous pourrez aussi parler des Saules, puisqu'ils ont envie de revenir sur ce grand prix de littérature policière et du plus récent livre, La Colline. Alors ici, on commence toujours par parler de lecture, de la place qu'occupe peut-être la lecture dans votre vie, et juste avant les je vous demandais si vous étiez toujours enseignante, et vous êtes enseignante, et du coup vous avez peut-être un rapport à la lecture et à la transmission aussi de ce goût-là tout particulier. Est-ce que vous voulez nous en parler ?
Oui, bien sûr. Oui, je suis toujours enseignante dans un collège de réseau d'éducation prioritaire. Ça fait 20 ans que je travaille en banlieue. J'ai commencé mes classes dans le 93, l'année des émeutes d'ailleurs. Ça a un peu forgé mon caractère d'enseignante. Donc voilà, ça fait 20 ans. Oui, j'aime transmettre... le goût des lettres, de la littérature, de la vie, surtout.
Comment c'est lié, d'après vous, le goût des lettres et de la vie ?
Pour moi, ça parle de la vie. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, en fait. Lisez, lisez, lisez. Alors, je lutte un peu, hein. C'est pas simple, en fait. J'étais moi-même pas une lectrice, en fait, quand j'étais petite, quand j'étais même jeune. Donc, je sais ce que c'est que de ne pas lire et de ne pas accompagner, en fait, sa vie grâce à la lecture. J'essaie de gommer un peu, peut-être, cette erreur-là que j'ai faite. En tout cas, je me suis construite sans. C'est pas simple, faut lutter face aux écrans, aux réseaux sociaux.
J'allais vous demander contre quoi vous luttez, ouais, principalement.
Oui, principalement contre ça, mais on a quand même des petites réussites, des petites pépites. Alors moi, je crois pas trop au fait de donner le même livre à lire, en fait, à tout le monde dans un temps donné. D'abord, j'ai des livres dans ma classe. Il y en a beaucoup aussi dans les CDI. Mais j'ai aussi demandé à ce qu'on pointe, qu'on poinçonne des étagères.
C'est la première fois qu'on me le mentionne, en effet. Ah, ouais. D'avoir des livres dans sa classe, ça fait quelque chose, en effet.
En fait, il faut qu'ils soient à portée de main, les livres, en fait. Et à portée de vue aussi. Et donc, de temps en temps, j'ai des élèves comme ça, majoritairement des filles, quand même, qui me disent, est-ce qu'on peut prendre celui-ci ? Voilà, je les expose même un peu comme une vitrine, comme ça, de librairie. Parfois, j'en glisse un dans le sac. Ça m'est arrivé la semaine dernière.
Ça crée du désir, en même temps, de les montrer, de les exposer, ça crée de la curiosité peut-être.
Oui, puis il n'y a pas toujours d'obligation. Vous voyez, je lire en fait, c'est un acte de liberté. On dispose de son temps, on lit ce qu'on veut. Et moi, j'aime bien insuffler ça à mes élèves. Je trouve que ça fonctionne mieux. Pas toujours noter le questionnaire de lecture très enclavé. Ça, j'y crois pas beaucoup. Donc, glisser un livre dans le sac parce qu'une gamine est très fatiguée la semaine dernière, qu'elle a pas dormi, qu'elle arrive pas à écrire ce que je lui demande d'écrire, c'était lié à la poésie. Je lui ai glissé Rupicourt dans son sac. Voilà, elle en a lu quelques-uns. C'est pas perdu et ça fera peut-être écho à des choses qu'elle vit.
Alors vous-même, vous n'avez pas été lectrice dans l'enfance et dans l'adolescence. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez la possibilité de transmettre ce goût ou comment vous y êtes venue, Mathilde Bosso ?
Oui, moi vraiment, quand je suis petite, j'ai deux amours. C'est Picsou Magazine hein, qu'on m'offre avant d'atteler la caravane.
Donc vous lisez.
Ouais, je lis des bandes dessinées.
Ouais.
Voilà. Donc Picsou Magazine que j'use jusqu'à la corde et
avant d'atteler la caravane.
Avant d'atteler la caravane ou pendant. Ouais. Voilà, quand la moisson était terminée, je guettais pas mal le ciel pour savoir si on allait pouvoir partir.
Vivement Picsou.
Voilà. Et puis des bandes dessinées Astérix, Torgal aussi. J'aimais bien la
lutte. Vous lisez alors Mathilde
Bossot? Oui, je lis, mais je lis la même chose et je relis souvent la même chose. Voilà. Et puis un livre aussi, un documentaire. C'est important aussi. Voilà, je viens pas forcément à la fiction et au roman très tôt. Moi. Un documentaire, je me souviens très bien, ça parlait des animaux, avec des dessins hyper réalistes.
Et toutes sortes d'animaux ?
Ouais, toutes les sortes d'animaux. Je me souviens que les girafes étaient mêlées aux grenouilles et aux têtards. Mmh. Et en fait, je voyais ce livre qui me faisait de l'œil, mais il y avait une règle à la maison, c'est que quand ma mère allait faire les courses et que je l'accompagnais, on n'avait pas le droit de demander quelque chose dans le supermarché, sinon on était sûr de ne pas l'avoir. Donc j'avais toujours une petite précaution oratoire en disant « Il est très très beau ce livre, maman. »
C'est pas que je le veux.
C'est pas... Voilà. Et en fait, elle me l'a offert à Noël. Et alors là, ce livre-là, ça a été l'amour, quoi. Parce que là, c'était la métamorphose notamment du têtard en grenouille qui me fascinait et que j'observais dans ma petite rivière près de chez moi. Ça a été un livre que j'ai aussi usé jusqu'à la corde. Et puis petit à petit, je vais tomber dans la potion magique de la lecture, mais ça va me demander du temps. Ça
mais
va
quel
me demander
temps,
de l'effort.
Quel genre de chemin ?
En fait, je sais pas ce que je veux faire quand je suis jeune. Je suis un peu les traces de ma sœur parce que je l'admire énormément toujours.
Et on l'embrasse.
Bah oui, on l'embrasse, Frédéric, sage-femme à Rennes. Et en fait, je vais choper. Des souris et des hommes sur sa bibliothèque. Elle a 4 ans de plus que moi. Et je vais aller choper ce qui est un classique, mais je ne le sais pas à ce moment-là. Et c'est sans doute l'un des premiers romans, en fait, que je vais lire par envie, par plaisir. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Hein, voilà.
Vous avez quel âge lorsque vous lisez
Là, je dois avoir 12-13 ans. Donc, je suis petite par rapport à mon habitude de lectrice, en fait. Et puis, ensuite, je m'engouffre dans une filière.
Mais ça vous plaît quand même, ce duo d'hommes?
Oui, j'adore. Mmh. Bah oui, parce que je pense que ça parle aussi de ma campagne, ça parle vrai, ça a une prise avec l'argot que je peux entendre sonner chez moi aussi. Donc ça me plaît, je pense que beaucoup de choses m'ont échappé à ce moment-là. J'en ai un souvenir nébuleux, je le relirai plus tard, certainement avec une autre façon de penser. Et m'engouffrant après dans une filière scientifique, très honnêtement, je suis à mon pain, quoi. Je fais de la physique à outrance, des maths, je suis pas Einstein, hein, donc je bosse beaucoup, je fais comme mes parents, je mets mon réveil le matin, le week-end. Et il y a un autre moment, bon, c'est un peu drôle, voire risible, mais je n'ai plus honte de rien, c'est que je vais voir l'athlétique.
C'est pratique,
ouais, c'est pratique, c'est passé les 40 ans, ouais. Ça arrive. Courage les filles. C'est que je vais en fait voir l'Allée du Roi, un téléfilm, à la télé. Et je vais tomber complètement amoureuse de Dominique Blanc. Je connais pas du tout sa carrière à ce moment-là. Et ma mère dit, tiens, ça me dit quelque chose, je crois que j'ai lu ce livre-là. Je vais le choper dans la bibliothèque de ma mère et je vais trouver ça extraordinaire. Et je vais aller en parler à mon professeur de lettres de seconde. Je dois être en première ou en terminale. Et là, elle me dit gentiment mais fermement, Mathilde, il va falloir quand même t'attaquer à des choses un peu plus sérieuses parce que là, je lui dis que j'aimerais bien faire des études de lettres. Voilà. Ça va pas me décourager. Je vais pas lire davantage, mais je vais découvrir dans le CDI de mon lycée quelque chose que je ne pensais pas exister, c'est la classe préparatoire littéraire. Moi, je ne savais pas, en fait, en terminale jusqu'au second trimestre que ça existait.
Voilà. Mais comment savoir ?
Bah, quand on nous le dit pas, c'est pas facile.
Exactement.
Donc, je trouve ça, je lis les brochures et je me dis, ah, mais ça me correspond.
Alors que vous êtes en plein en train de faire de la physique à fond la caisse.
Exactement. Oui, j'ai 8 heures de physique, spécialité et tout et tout. Et je vais faire un virage à 180 degrés.
Ah oui ?
Bah oui, parce que je pars en classe préparatoire littéraire à Châteaubriant, à Rennes. Bon, c'est la claque. On va être honnête. Je mesure l'étendue de mon ignorance. Je pédale tout ce que je peux, mais je sens que la côte va être trop raide. C'est trop difficile, mais ça va me donner l'envie de lire. Ça va me donner des clés de lecture. Et là, je vais me sentir à la fois pas du tout à ma place parce que je suis quand même en échec scolaire et que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et en même temps, je me dis qu'avec le temps, mes parents finançant mes études gentiment, je vais continuer dans cette veine-là.
Et vous y arrivez ?
Oui, ouais, je vais y arriver.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du goût de la lecture, de l'histoire littéraire, de ce monde-là dans lequel vous entrez,
ouais,
qui vous satisfait, qui, ouais, vous rend heureuse, qui vous rend curieuse.
C'est ça. Et là, c'est l'ouverture. Moi, je me souviens, mon premier jour en classe préparatoire, comme je m'appelle Bosso, je suis en début de l'ordre alphabétique, je me fais coller à l'oral. Vous savez, c'est colle, voilà.
Non, c'est, je sais pas, c'est quoi ?
L'école, c'est les oraux qu'on va vous imposer quasiment du jour pour le lendemain. Enfin, nous, ça se passait comme ça. Et donc, la prof de français dit, donc Bosso, tu es collé sur Villon et Sartre. Et moi, je savais même pas qui c'était. Je savais même pas que c'était des auteurs. Je n'aurais pas pu les placer sur une frise chronologique. J'ai pas de livre à la maison. J'ai récupéré des vieux Lagarde et Michard d'un copain qui voulait s'en débarrasser parce que sa mère faisait du tri.
Et ça, c'était pour le lendemain.
Donc évidemment, je me plante magistralement. Mais que vais-je faire? Parce que je suis née dans une famille où on baisse pas les bras facilement. Sinon, on meurt.
Sinon, rien ne se
passe. Bah ouais, c'est les familles de paysans, hein. Mais bien sûr. Et donc, bah, je vais aller acheter, alors Villon moins, mais je vais aller acheter pas tout Sartre, mais pas loin. Je vais aller lire toutes les pièces. Mais j'ai donc toujours un wagon de retard.
Mais par contre, ça ne vous décourage pas?
Si. J'ai été découragée une fois par une enseignante moins sympathique. J'avais vraiment des gros cartons en latin. Alors que moi, j'aimais bien ça, paradoxalement. Et qui va me mettre gentiment la main sur l'épaule et dire très fort devant toute la classe, Mademoiselle Bosso considérait qu'il est inutile de travailler maintenant. En gros, c'est perdu. Mais ça va
c'est
me décourager.
C'est si méchant pour rien.
Ouais. Ça se faisait à l'époque, certainement. C'est pas sympa, mais c'est pas très grave non plus. Parce que je vais pas cesser. Et d'ailleurs, quand je vais passer mon CAPES de lettres modernes, je vais choisir le latin. Comme
allez.
Quoi, l'idée de s'accrocher envers et tout et contre tout, comme les moules de Bretagne.
Il y a quelque chose de peut-être d'assez puissant dans ce qui s'est lié entre vous et la littérature à ce moment-là, un peu dans une forme d'adversité, ou peut-être pas l'adversité, mais de non-naturel,
si,
qui vous sert aujourd'hui dans la transmission que vous faites de la littérature à vos élèves.
Ah oui, totalement, parce que je leur dis des fois.
Qu'il n'y a pas une évidence, en
non,
fait.
Non, complètement, que ce n'est pas facile, qu'entrer en lecture, que de se laisser porter par des mots, bah, je ne sais pas, c'est comme quand vous vous mettez à la course à pied, si on vous demande de cracher 10 km du jour pour le lendemain, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Ce n'est pas possible, le corps ne peut pas. Là, en littérature, c'est pareil. Donc, en fait, je leur dis toujours de venir à des petites choses, des petites pièces comme ça dans l'édifice de leur vie, que c'est comme ça qu'on va construire, et c'est surtout d'essayer de trouver le plaisir, en fait.
Et il le trouve, il et elle le trouvent,
ouais.
Vous le voyez,
ou parfois.
Ça arrive devant vos
oui,
yeux.
Ça arrive. Ouais. Oui, ça arrive. J'ai eu.
Ils ont quel âge, les enfants, les jeunes gens qui vous
Alors, moi, j'ai des petits, j'ai des sixièmes de 11-12 ans, et j'ai des grandes collèges de 14-15, parfois 16 ans, ils n'ont pas beaucoup d'avance. Et ça arrive, au compte-gouttes. Mais chez les petits, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Les grands sont un peu plus réfractaires.
Et vous voyez un visage qui se transforme,
oui.
Quelque chose qui se modifie,
oui.
Dans la trajectoire.
Oui, notamment chez les filles. Il y a certains bouquins que j'ai mis entre les mains de certaines filles. Parfois, c'est pas facile. Vous mettez les Hirondelles de Kaboul entre les mains de certaines jeunes filles qui vivent certaines choses de par leur milieu social, leur religion, etc. On sent qu'on bouscule un peu les lignes, hein. Mais je sens que ça avance. Tout ce que je veux, moi, je leur dis toujours, en fait, c'est leur donner les clés d'une forme de liberté, c'est-à-dire la capacité à choisir ce qu'on veut devenir, celle qu'on veut être, en sortant parfois d'un foyer familial qui est compliqué. J'ai une gamine, il y a 2 semaines, qui pleurait dans mes bras parce qu'elle avait eu que les compliments. Moi, je lui disais, écoute, ma cocotte, les compliments, c'est très bien, t'auras les félicitations au trimestre prochain. Et en fait, non. J'ai compris qu'en fait, pour elle, l'école, c'était tout. Et que le moindre échec ou le moindre aveu d'échec, en fait, pour elle, c'était terrible. Et c'était une trajectoire familiale contre laquelle elle luttait, pieds et poings.
Il y a toujours une grande curiosité pour moi quand on a la chance d'avoir des professeurs de français autour de cette table. Donc c'est vrai que j'ai commencé par ça, Mathilde Bosso.
Oui.
Ça nous permet d'entendre aussi la transmission à l'œuvre vivante, essentielle, difficile, parfois peu reconnue de ce travail de transmission de la littérature. Mais vous, alors en tant que lectrice, si on essaye d'oublier la prof de français que vous êtes, la place de la lecture dans votre vie, c'est quoi? Est-ce que ça parvient à être un tout petit peu détaché du métier que vous exercez?
Ah oui,
ouais.
Oui, j'aime beaucoup lire par plaisir. Si ensuite il peut se faire une jonction avec mon travail, j'ai envie de dire tant mieux, parce que j'aime beaucoup réinvestir les textes que j'ai lus et que j'aime dans mes classes. Là, j'ai commencé ce matin dans la forêt avec mes élèves parce qu'on travaille sur la dystopie. C'est un texte, je leur dis d'ailleurs, c'est un texte que j'ai adoré, je leur montre le livre, il est là. mais j'aime lire par plaisir. Je crois, je suis même sûre, je lis tous les jours, en fait, tous les soirs.
Vous dites ça avec des étoiles dans les yeux, j'adore.
Oui, parce que c'est une vie parallèle, en fait, pour moi. Ça, moi qui ai eu des angoisses de mort toute petite quand j'avais 8 ans et qui ne pouvait pas dormir.
Qui n'en a pas su, je me demande.
Je
ne
sais pas, moi ça m'empêchait de dormir, vraiment, quoi. Et ça démultiplie les chemins de votre vie. Mmh. Alors... Maintenant que j'écris, j'avoue que...
Ça fait une triple vie parallèle.
Ouais, mais ça, je fais le deuil de certaines pages. Je n'ai pas le temps de lire autant. Voilà, parce que forcément, les journées ne comptent que 24 heures.
Il y a des passerelles évidentes entre votre champ de lecture et votre champ d'écriture. Vous avez décrit des passerelles entre la lecture et l'enseignement, mais entre ces deux autres endroits de votre vie, Mathilde Bosso.
Entre la lecture et l'écriture. Ah oui, je pense qu'il y a des vases communicants, mais je ne les sens pas toujours bien, en fait. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais aurais-je écrit de cette manière-là si je n'avais pas lu?
Alors, qui et quoi en particulier? Rien en particulier.
Non, je suis très, je dirais, un peu bordélique dans mes lectures. Mmh. C'est-à-dire que j'ai eu une période où j'étais, par exemple, très fidèle en lecture. Je commençais, je sais pas, Murakami, Zweig, Philippe Roth, des choses comme ça. Et j'enchaînais. Voilà. Mmh. Peut-être pas tout, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'enchaînais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai tendance à picorer plutôt à droite, à gauche et à lire de la fiction, mais à lire aussi beaucoup de poésie. Ça m'aide beaucoup, en fait. Même si ça demande beaucoup de concentration, bizarrement, ça m'aide beaucoup. À lire aussi des essais. Donc, en fait, je mange un peu à tous les râteliers. Je glane un peu partout ce dont j'ai besoin à un moment donné.
On va aller vers votre dernier texte, La Colline, juste après cette chanson, Fille de toutes les autres, de George K.
Quand la vie d'avant te revient par éclat de peine, qu'il pèse tant les mille coffres que tu traînes, quand tu t'accuses de tout le mal qui te saigne, quand tu te sens de trop, même quand t'es seul sur scène, quand son visage danse dans le préau de tes remords, que tous les bateaux sans rien dire quittent le port, quand ils décident entre eux que tu sais qu'ils ont tort, quand tu te sens t'écrouler dans ton propre corps. Pense aux herbes hautes, aux épaules chaudes et aux étreintes qui réparent. Pense à toutes les autres qui avant toi en ont bien gravi des remparts. Quand la nuance s'écrase sur les digues de nos rancunes, que les promesses s'étiolent et semblent faites d'écume, se répète qu'une vie ça se gâche et qu'on en a qu'une, que tout paraît plus doux là-bas derrière la dune, quand les opinions s'entre-déchirent sans rien attendre, que même les espoirs n'alimentent plus le scaphandre, quand le monde entier semble sur le point de se fondre, quand tu rejettes malgré toi les mains qui se tendent. Les herbes hautes, tu donneras ton épaule, ton étreinte qui répare. Fille de toutes les autres, tu nous tendras la main tout en haut du rempart.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Drame dans une cité rennaise aujourd'hui. Au programme de votre book club, un bébé est retrouvé vivant dans les poubelles des immeubles, tandis qu'une jeune femme de 17 ans, sa mère, se tient le ventre, vide désormais, à garde quelques étages plus haut. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, une enquête policière se lance, mais surtout, une chorale de voix et de sensibilité se met en place et raconte le monde présent, ancien, qui rend possible la scène que l'on découvre. Le livre s'appelle La Colline, il a paru aux éditions Seuil dans la collection Cadre Noir, Mathilde Bosso. Et avant qu'on entende un premier extrait et qu'on entre dans ce roman choral, dans une sorte presque de chœur, de voix, d'habitants, de métiers, qui viennent comme chanter la possibilité que cette scène horrible puisse exister. Il y a un prologue, et ce prologue est une naissance. Mmh. Et c'est la scène d'avant tout. C'est la scène, et presque je me disais, c'est comme si elle était préservée du reste. Il y a un enfant qui naît. Comment est-ce que vous en êtes venue à l'idée qu'il fallait que ça s'ouvre comme ça ?
Ça fait un petit peu écho à mon premier roman qui est construit de cette manière-là, avec un prologue.
Et Saul.
Ouais, avec celui que je suis en train d'écrire aussi.
C'est pas rien de faire un prologue, ça veut dire qu'on tient un début avant le début.
Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui est jeté chez moi au tout début, qui va ensuite être retravaillé, retricoté. Mais j'ai jeté en fait certaines phrases et je vais m'échiner à comprendre en fait ce qui sort comme ça, qui est absolument terrible. Ça sort de mes entrailles, vraiment. Mmh. Le prologue de la colline, je suis retraversée par des choses aussi qui m'ont aussi traversée en tant que femme. Hein, quand j'écris le prologue de la colline, dans un enfermement, voilà, dans un lieu clos. Et toute la question va être de savoir comment je vais pouvoir moi aussi m'en sortir dans l'écriture. Mmh. Voilà.
Et l'entreprise d'écriture qui va arriver ensuite, c'est une entreprise d'éclaircissement, presque de déchiffrement de cette première scène ?
Oui, parce que moi, je ne sais pas ce qui est arrivé à Monroe quand j'écris.
Monroe, c'est le prénom de
ma jeune fille, de mon héroïne. Quand j'écris, je me lance comme dans les vagues de la Manche de mon enfance. Vous voyez, c'est se jeter du haut de la falaise et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je sens que c'est terrible. Je sens que ça va être un rocher de Sisyphe, que je vais monter la colline, que je vais la redescendre. Je sais jamais si je vais réussir à venir à bout de ça, si les mots vont réussir en fait à donner justice à Monroe. Mmh. Et c'est tout l'enjeu du roman, en fait, quand j'écris. C'est tout l'enjeu de la lenteur de l'écriture. Mmh.
Mmh. Dans cette scène d'ouverture, elle accouche, mais elle est muette, et il y a beaucoup de peut-être, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que c'est une scène qui est prise dans l'incompréhension même de cette scène. Mmh. Et le roman ensuite s'ouvre, et plusieurs voix vont naître. Mmh. Elles aussi, et beaucoup d'hommes d'ailleurs, hagards, abasourdis, étonnés, démunis, on en écoute une première, c'est Édouard.
Toujours le même bruit. Il vient du fin fond de la cuve, mais c'est noir comme une nuit sans lune là-dedans. Je pense à une portée de chatons. Pour s'en débarrasser, mon père les balançait dans l'étang quand j'étais petit. Je voyais le sac dériver. Après, il a mis des pierres, ça coulait à pic. J'ai pensé que ça piaillait pareil. Mais j'ai jamais entendu dire qu'on avait jeté des chatons en ville un samedi matin. Je remonte chez nous avec le sac poubelle. Mireille gonfle déjà ses joues comme un poisson globe. Elle m'engueule, le sac pisse du jus dans l'entrée. Elle les ficelle toujours mal à cause de son arthrose et elle les remplit de sauce, de peur de boucher les toilettes depuis qu'on a eu des problèmes de canalisation. Je dis « Tais-toi Mireille, viens avec moi ». Quand j'ouvre la trappe, j'ai pas besoin de confirmation. Elle a la tête de celle qui entend un bruit pas catholique. Elle jure. Elle s'arrête, me regarde et dit « Appelle les pompiers ». T'es sûre ? Non. Je me souviens de ce que répète Bobby. Si ça va pas, papa, appelez les pompiers. Eux, ils sauront quoi faire. Moi, je suis pas médecin. Je demande le numéro à Mireille parce que je viens de l'écraser dans mon cerveau. C'est une bouillie là-dedans. Elle jappe. 18, 18, 18. Je sens l'urgence dans sa voix. Je tape les deux chiffres sur le portable que Bobby nous a acheté. Ça décroche. Mireille met la main devant sa bouche comme si elle la retenait de tomber. J'entends une voix. Je débite ma phrase sans bafouiller pour être pris au sérieux. Je crois bien qu'il y a un bébé balancé dans les poubelles, enterré devant chez nous.
Édouard, c'est la première voix qu'on entend dans la colline, Mathilde Bosso, et il va y avoir un relais de voix. On va retrouver ensuite Monroe. Monroe, elle est dans les étages. Mmh. On comprend vite que c'est la mère, hagarde, jeune, dans son sang, qui vient d'accoucher du bébé. Mais il y a toutes ces voix, et aussi, peut-être rapidement, l'image de l'immeuble et des fenêtres qui clignotent, et quelque chose qui va être c'est forcément pluriel, quoi. C'est forcément multiple pour y comprendre quelque chose. Mmh. Comment est-ce que vous en êtes venu à ça, à cette entreprise de pluralité?
Je pense que ça vient de ma sœur. Donc elle est sage-femme et elle m'a raconté cette histoire. Je vais partir d'un fait divers. Hein. Ça a eu lieu en octobre 2023 à Rennes et elle m'a raconté ce petit ancien qui entend les cris, qui va ensuite être envoyé à l'hôpital parce qu'il fait un malaise. Mmh. Le pompier qui descend, les flics remontés comme des coucous qui débarquent à l'hôpital.
Le pompier aussi, on entendra sa voix. Voilà. Lui aussi, voilà. Il est choqué, pas de la même manière voilà. qu'Edouard, etc.
Les soignants qui prennent ce petit abandonné, qui essayent de lui donner toute l'affection du monde. Donc tout de suite, quand elle me raconte cette histoire, je sais absolument pas à ce moment-là que je vais en faire un livre, mais j'entends ses voix, j'entends cette bonté en fait, essayer de prendre soin de ce côté terrible en fait. Et très naturellement en fait, je vais effectivement construire un roman choral parce que comme je ne sais pas ce qui est arrivé à Monroe, pour moi, si vous voulez, c'est un caillou noir avec plusieurs aspects. Et j'ai besoin, en fait, pour essayer de mettre à jour la vérité, d'avoir des points de vue différents qui éclairent, en fait, différemment cette roche saillante pour voir si ensemble, en fait, on peut la porter et on peut découvrir vraiment ce qu'elle cache.
D'ailleurs, c'est matérialisé. C'est-à-dire que vous parlez d'un caillou noir, mais on a presque aussi un conduit noir dans lequel tout le monde est, ou un puits, tout le monde regarde, il fait noir, on sait pas ce qui se passe, mais parce qu'on est aussi au cœur de l'horreur, en fait, Mathilde.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est même, là, on pourrait être dans un polar où on commencerait par un crime, mais presque, l'autre horreur, c'est un bébé vivant dans une poubelle, c'est une image d'horreur.
C'est l'horreur, mais l'horreur, c'est aussi, moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est comment on survit à l'horreur d'un crime, parce qu'il y a plein de survivantes, en fait, à l'horreur du crime. Mm-hmm. Comment on fait, en fait, avec ça, avec ce caillou, justement, qu'on vit, enfin, voilà, avec lequel on vit, là, à l'intérieur, toute sa vie. Ça m'intéresse, en fait, de m'occuper de la survivance, de la résilience aussi, si elle peut exister. Et j'avais besoin d'entourer Monroe et son histoire de toute la bonté du monde, de l'humanité. Parce que c'est ça, écrire, en fait. C'est mettre des mots sur une histoire. C'est pas se contenter du fait divers. Soit qui crée la sidération, soit qu'on oublie très vite. C'était justement de prendre le temps et par la formation de ce cœur, à la fois CH et à la fois COERE, c'est-à-dire de ce cœur qui vient du courage aussi, comment on peut y aller et se dire non, on peut pas lâcher cette histoire-là en fait, il faut essayer, si on peut, de rendre justice à Monroe.
Et ce qui apparaît aussi immédiatement avec cette structure romanesque, c'est que c'est pas que l'histoire de Monroe et ce bébé, ni que l'histoire de Monroe, ce bébé, sa mère, son frère, c'est tout un monde. Et en fait, ce que construit le roman, c'est bien que si c'est possible que cette image arrive, c'est que non seulement c'est tout un monde présent qui permet malheureusement cette situation, mais aussi tout un monde passé et tout un monde passé derrière ce monde passé. Et vous allez, avec le roman, y regarder de plus près. On va écouter la voix de l'autrice Louise May parler de l'usage de ces personnages, de l'attachement et aussi de ce qu'elle utilise dans le roman pour porter des voix.
Ce que je trouve souvent dans ces dynamiques de romans-là, dans les romans policiers, les thrillers, c'est des personnages de victimes qui ne sont là que pour servir l'intrigue, dont les souffrances ne servent qu'à faire avancer la trajectoire d'un personnage souvent masculin. Et je sais que c'est pas ça que je voulais mettre. Je pense qu'on met tous quelque chose dans la culture générale dans laquelle on baigne. C'est pas ça que je voulais ajouter au flot. Je voulais ajouter d'autres choses. C'est-à-dire que je décide, moi, d'utiliser cette voie-là pour aborder des sujets qui m'importent, qui me touchent, qui m'interrogent, je ne fais qu'essayer d'articuler les questions qui m'animent au quotidien, en fait. Moi, les intrigues, c'est pas forcément quelque chose de... je pense que c'est en général 10 à 15% de mes livres, parce qu'après, tout le reste, pour moi, c'est tout l'attachement que je vais avoir pour mes personnages. Et l'attachement, c'est pas forcément de l'appréciation, parce que j'écris aussi des personnages que je trouve insupportables parfois. C'est de l'attachement dans le sens où je veux qu'ils existent, je veux qu'ils aient une profondeur, une tessiture, des reliefs, de la rugosité. Et je veux, moi, m'intéresser à ce qui leur arrive. Parce que plus je m'intéresse à ce qui leur arrive, plus leur arrive des choses intéressantes.
La voix de l'autrice Louise May au micro d'Arnaud Laporte sur France Culture. Se servir de cet art romanesque, pas pour rajouter des histoires horribles aux histoires horribles, mais donner de l'épaisseur aux victimes, et ne pas les cantonner à ce statut-là, les regarder avec intérêt, c'est leur permettre de vivre des choses intéressantes. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de position éthique de votre écriture qui se situerait au même endroit, Mathilde Bosso?
Peut-être, j'aurais du mal à parler de mon travail avec autant de clarté, moi, à ranger des pourcentages, d'intrigues. Je sais pas du tout, tout est très entremêlé. En tout cas, quand j'écris, je crois que j'y réfléchis beaucoup plus une fois que j'ai terminé que quand j'écris. Vraiment, je suis dans l'histoire. Je sais que j'ai à cœur d'essayer, en fait, de faire en sorte que mes personnages puissent s'en sortir, en tout cas dans les consciences des lecteurs. Et je fais ce que je peux. Je m'engage, mais de façon très diffuse, en fait, à travers mes personnages. C'est pas un engagement frontal. J'ai pas envie qu'on pense ceci ou cela. C'est pas des romans à thèse. Mais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est très, très entremêlé. Et très souvent, j'ai l'impression que mes personnages me guident davantage que je les guide. Alors, c'est très bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression d'être parfois un peu leur greffière. C'est eux qui avancent, en fait. Ils courent devant moi. Et moi, j'essaye de rattraper et j'essaye de déposer simplement ce que je sens, ce qu'on me dit au creux de l'oreille. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'écrire, au-delà de l'intrigue, me met dans un état compliqué ou complexe, je sais pas trop. C'était René Char qui disait quelque chose comme ça, on ne se bat bien qu'avec les causes auxquelles on s'identifie. On ne se bat bien que près des causes auxquelles on s'identifie un peu en se brûlant. Et c'est vrai que j'aime me battre pour certaines causes. Et oui, en écrivant, il y a ce sentiment effectivement de brûlure que je peux ressentir même parfois sur ma peau, quoi, je veux dire physiquement. C'est important, mais il me semble que ça en vaut la peine, au moment où j'écris en tout cas.
En l'occurrence, on pourrait dire ici, donc, cette jeune femme dont on va discuter la condition, qui a eu cet enfant et accouché de cet enfant dans une certaine condition, mais aussi les conditions de soins de la maternité dans laquelle elle va se retrouver, mais aussi les conditions de travail des policiers, des pompiers. Ce serait ça, tous les, entre guillemets, combats, Mathilde Bosso, ou tous les endroits où vous allez regarder peut-être?
Oui, certainement. Certainement, c'est toutes les petites histoires en fait qui m'ont été transmises par les gens qui vivent autour des hôpitaux. En fait, ça m'intéresse de m'intéresser aux gens, parce que je pense que je suis comme ça dans la vie. J'ai vraiment plein de défauts, mais j'aime écouter et j'ai la chance en fait d'être entourée de gens qui viennent de milieux sociaux très différents. Il y a le monde agricole, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie dans les usines agroalimentaires, des personnes très âgées que j'écoutais ardemment parce que je savais que quand ils allaient s'éteindre, c'était une bibliothèque qui allait brûler. J'ai la chance, voilà, de côtoyer des mondes différents et de pouvoir les faire résonner en fait quand j'écris. Et c'est quelque chose qui me traverse et qui remonte progressivement à la surface que quand j'écris. Parfois même quand je me relis, je me reconnais pas complètement en fait. Je sais pas ce qui est sorti en fait.
Il y a quelque chose de différent. La voix des autres, du récit.
Oui, c'est ça. C'est peut-être un peu prétentieux par contre ce que je dis là.
Non, vous racontez votre travail.
Ouais.
On va écouter Mathilde, auditrice du Book Club. Elle a lu votre livre avec passion, semble-t-il. Et elle vous adresse une question sur la relation de Monoro, ce personnage de jeune fille, jeune mère, et sa mère.
Bonjour le Book Club. Bonjour Mathilde Bosso. Déjà, je tenais à vous dire à quel point j'ai adoré votre livre. Je voulais savoir si l'attitude de la mère vis-à-vis de sa fille, qui est quand même extrêmement dure, on peut même parler, enfin là, on est à ce niveau-là, c'est même plus dur, c'est de la maltraitance. Je voulais savoir si vous le voyez comme, en fait, une projection de ce qu'elle a vécu, à savoir, comme vous dites dans le livre, que les hommes dans cette famille, ils viennent pour faire des bébés, ils s'en vont. Et est-ce que, du coup, elle a projeté ça sur sa fille, ce qui l'a amené à commettre cet acte horrible? Voilà, en tout cas, merci encore pour votre livre. J'ai eu un immense coup de cœur. Je le recommande à partout autour de moi.
Merci Mathilde pour cet enthousiasme. Et cette question, reproduction de la violence, ou peut-être on peut s'attarder dans un premier temps sur ce que Mathilde nomme maltraitance entre Monroe, cette jeune fille, et celle qui, pendant très longtemps, n'est désignée que par la mère. En effet, très dur, ce lien-là. Notre auditrice parle de maltraitance et demande, est-ce que cette maltraitance est une forme de reproduction du maltraitance subie?
Je suis pas sûre. Enfin, dans l'idée, quand j'écris, je suis pas sûre que la mère de Monroe ait été aussi maltraitée. Hein. Elle fait vraiment subir à sa fille le pire, mais elle n'a pas reçu effectivement les fondements de l'amour. Voilà, on lui a pas dit je t'aime. On ne s'est pas occupé d'elle. Sa propre mère, donc la grand-mère de Monroe, Madeleine, en a été aussi empêchée de par son histoire personnelle. Alors, souvent, j'aime à dire que tout s'explique sans forcément s'excuser. Mmh. Vous voyez ? Mmh. Et cette mère...
Ça s'est pas bien embranché pour toutes ces femmes,
non.
Quoi, entre
non,
les
non.
mères et les filles.
Non, ça a toujours été des fausses routes. Effectivement, les pères sont de passage, mais franchement, ils passent comme le vent. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne sont vraiment pas incarnés, ils n'existent pas, même le temps d'une grossesse, par exemple. Et effectivement... En tramant cette histoire, petit à petit, il y a des schémas en fait que chaque femme en fait reproduit, mais quand même, Monroe va réussir à comprendre des choses grâce à l'amour de sa grand-mère, parce que en vieillissant en fait et en ayant vu passer, pour tout dire, plein de gamines fracassées en fait à travers mes classes, d'accord, qui restent le
là
temps
c'est de... vous,
voilà ouais, c'est moi, là c'est moi la prof qui reste le temps d'une récréation avec une gamine qui s'effondre. Voilà, qui vous raconte le pire. Je me rends compte que quand on a l'amour, notamment de la mère, de la grand-mère, on peut réussir à trouver les chemins pour s'en sortir. Voilà, c'est très important. Je crois que je ne pensais pas de la même manière quand j'ai commencé à travailler. Et je parle là de mon boulot de prof.
Vous pensiez pas à quoi ? À l'importance de l'amour ?
Je pense que je ne le conscientisais pas de la même manière. Je me disais qu'on pouvait quand même se concentrer en classe, faire mieux que ses parents. Bon, les choses sont éminemment plus compliquées. Et effectivement... J'emmène Monroe sur cette colline-là pour effectivement transcender cette relation de mère-fille qui n'existe pas. Je le dis d'ailleurs dans le bouquin, elles n'ont jamais, leurs regards ne se sont jamais croisés quand Monroe était bébé. À aucun moment, cette mère ne regarde en fait sa fille dans les yeux, jamais. Et c'est comment transcender cet amour-là qui n'existe pas en se disant que la lumière est possible, comme disait Camus, se placer à mi-chemin entre la misère et le soleil. Et en allant sur la colline, c'était rejoindre le soleil, même s'il y a beaucoup de vent, je vous l'accorde, pour pouvoir peut-être renouer avec quelque chose dont on peut penser que c'est immuable, que ça ne peut pas exister et qu'on ne se relèvera pas. Comment peut-on se relever ? C'est possible, voilà.
En tout cas, sans dévoiler trop de choses, une des manières dont se relèvent les femmes dans votre roman, Mathilde Bosso, c'est... Alors, ou bien en abritant dans des larges côtes un ventre rond qui naît, donc c'est en étant côte à côte et en passant du temps vraiment du corps à corps.
Ouais.
Et aussi quand même en se racontant deux, trois choses. C'est-à-dire que ces choses du passé qui sont pendant très, très longtemps tues, il y a des moments, notamment sur cette colline, où elles vont pouvoir exister. Mmh. On va pouvoir dire, bah ouais, moi j'ai pas réussi à être la mère de ta mère, par exemple. Ça a pas marché, quoi. C'est comme ça. Et c'est possible parce que cette femme, elle s'appelle Madeleine et qu'elle a un certain âge et qu'elle se rend compte que c'est possible de le dire à sa petite fille. Et comme vous le dites, vous le faites arriver ça à un certain endroit que vous appelez la colline, c'est-à-dire un peu plus loin de la ville, dans un autre endroit. Et je voudrais qu'on écoute la voix de la romancière Cécile Coulon, qui elle aussi travaille des espaces différents, la ville et la campagne ou la ruralité, on utilise les mots qu'on veut, et elle dit que ce ne sont pas les mêmes histoires qui s'y trament.
Les histoires en ville, ce sont les hommes qui les racontent, ce sont les hommes qui les font. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans une ville peut raconter sa propre histoire, il peut faire sa propre histoire, il peut créer une nouvelle histoire. Alors qu'à la campagne est pleine des histoires des ancêtres, la campagne est pleine des anciennes générations. Quand on arrive à la campagne, on est écrasé par les histoires des autres, alors qu'en ville, on peut inventer la sienne.
Monroe descend la sente pour rejoindre la rivière. Un soleil froid habille les feuilles de chêne d'un vert vif. Le vent redouble de force, il ne reprend jamais haleine. Monroe marche et ses bottes font se coucher les herbes hautes. Les arbres forment une voûte au-dessus de la rivière, le débit est rapide l'hiver. Jacques n'est pas là. La vieille dit que c'est un homme gentil, mais Monroe préfère être seule. Elle remonte le cours d'eau comme un saumon, à contre-courant. Ses bottes immergées sont lourdes. Elle sent les cailloux pointus titiller ses plantes de pied. Quand un gros rocher émerge, elle se perche dessus et reste un moment sans bouger. Jacques lui a dit « Si tu es patiente, tu verras les truites sortir des souches. » Elle n'en a encore jamais vu. Monroe attend. Elle lève le nez. Le vent et le soleil s'accouplent à cet endroit. La froideur est matinée d'une chaleur sourde. Elle aime bien rester sans bouger. Elle sait que personne ne l'obligera à se bousculer. Elle ne pense pas à son ventre. Il est encore léger, juste empli d'un peu de pain et de lait. Un bruit sourd plombe le talus, juste à côté d'elle. Monroe sursaute, manque de trébucher dans l'eau. Le bruissement est sec. C'est une bête tombée du ciel. Monroe quitte la rivière et, les bras trop longs contre son corps, elle avance vers le claquement de moins en moins vif. Au milieu des herbes hautes, une corneille se débat. Une seule aile cherche l'air, la liberté. Ses yeux s'affolent dans tous les sens. Son bec se redresse pour se défendre. Monroe s'accroupit, à distance. Elle attend, elle a la patience dans les veines. La corneille se débat contre son sort.
Au début de votre roman, Monroe gît dans son sang à l'étage et dans cet endroit-là où elle vient, on le comprend, d'accoucher de son bébé, Mathilde Bosso, elle peut revisiter la colline, elle peut revisiter le passé et on l'entend là dans une scène où elle fait corps avec la rivière, elle fait corps avec le vent, avec les herbes hautes et d'un seul coup, cette petite corneille dont l'aile cherche éventuellement la liberté, c'est un double animal de Monroe. Et d'ailleurs, dès le prologue, cette toute jeune femme qui accouche, elle est aussi vue dans une forme d'animalité, d'un corps vivant, d'un corps animal. Juste avant, on entendait la romancière Cécile Coulon parler des deux espaces, espace rural et espace urbain, où le passé et les histoires ne nous pèsent pas tout à fait sur le corps de la même manière. Est-ce que vous qui écrivez ce roman aussi, entre les cités rennaises, la ville et la colline, vous diriez que ça se répartit aussi comme ça ?
Je ne sais pas. Moi, je viens de la terre et de la campagne. Et quand j'écris, c'est là que je veux retourner. C'est pas forcément conscientisé. Je me dis pas, il faut aller dans le rural. Mmh. C'est là qu'on t'attend, Mathilde Bosso. Pas du tout. J'y retourne parce que je pense que c'est quand même là que j'ai passé des heures joyeuses. Et c'est le paradis un peu perdu de l'enfance, quoi. Et quand je commence La Colline, c'est donc un univers effectivement très, j'allais dire carcéral, mais c'est un univers très, très urbain. Et c'est une ville de fer, quoi. Et de causeries lointaines. Et malgré toute la bonté de ses protagonistes, je n'en peux plus. Donc au bout de 10 pages, en gros, soit j'arrête, soit je trouve un autre chemin. Et là, je vais m'évader sur La Colline. Alors là, c'est un point de vue extérieur. Mmh. C'est moi. Je ne m'éteins plus comme je dois m'éteindre quand je donne la parole à mes personnages. Et donc, c'est vraiment le champ de la liberté, en fait. Et dans cette campagne, il y a celle qui, pour moi, incarnait la campagne et l'amour de la campagne, qui l'arpentait de long en large, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'était ma grand-mère. Et donc, instinctivement, en fait, c'est elle que je vais rejoindre, en fait, sur cette colline. Alors, j'aime pas bien les dichotomies ou le manichéisme, la ville c'est mauvais, à la campagne tout est bon. Je crois pas que ça soit comme ça dans mon livre. La ville est faite de très bonnes personnes et dans la campagne il n'y a pas non plus que des gens sympathiques et
ni des situations agréables.
Voilà, et je crois que je l'écris aussi un peu dans La Colline, mais j'avais besoin farouchement de m'évader et en tout cas de faire gambader Monroe, quoi, dans un endroit différent qui est un endroit qui ressemble à des endroits que j'ai pu traverser quand j'étais petite. Quand elle trouve cette corneille, très concrètement, ça me fait penser à moi qui mettais des heures à apprivoiser des petits chats sauvages jusqu'à ce qu'ils se fassent égorger par les chiens des voisins. Et donc j'ai appris à les laisser, moi aussi, à leur sauvagerie pour qu'ils puissent survivre. Donc je vais être traversée, en fait, par toutes ces billes d'enfance.
Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce qui se passe à la colline et près de cette grand-mère Madeleine, c'est qu'il y a des bribes du passé qui se disent et qui éclairent la première, en effet, scène ferrailleuse, difficile, trou noir, poubelle, quoi. Petit à petit, c'est dans autre chose qu'on va regarder. Alors, c'est peut-être aussi un peu les poubelles du passé, mais en tout cas, on est obligé de se pencher au-dessus de ce trou noir pour comprendre. Et encore une fois, on va essayer de pas trop en dire, Mathilde Bosso, mais dans ce fil qui traverse ces générations de femmes qui ont du mal à s'aimer, qui ont du mal à s'emboîter, qui ont du mal à être des mères pour les filles et puis des filles pour les mères, il y a quand même l'histoire d'une misogynie, il y a une histoire d'une haine du corps des femmes, il y a l'histoire de la non-liberté de disposer de son propre corps, il y a l'histoire des maternités non désirées, etc., etc. Et je disais en introduction, votre roman, comme la société, n'en finit pas d'en regarder les dégâts, quoi.
Ah oui. Bah oui, ça secoue les journaux du côté de Clermont-Ferrand il y a quelques jours, où un bébé a été aussi retrouvé jeté, une petite fille de quelques jours, dans une poubelle. Enfin, je veux dire, c'est terrible, je voudrais surtout pas collé à l'actualité, quoi. C'est terrible. Mais oui, il faut regarder, en fait, dans le trou noir. Alors, ça peut être le vide à ordures dans la banlieue rennaise, mais c'est aussi le puits, en fait, qui
de l'histoire.
Sur la colline où il s'en est passé, des vertes et des pas mûres. C'est regarder cette noirceur-là. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que de cette noirceur-là peut jaillir la lumière. Et si, effectivement, comme vous le dites, on arrive à ne plus avoir ce corps encarcané par les générations et le poids des non-dits, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Et si on arrive à s'emboîter, comme moi j'ai pu le faire quand j'étais enceinte, contre le corps de ma grand-mère qui était en train de mourir pour dire « je t'aime »,
on répare un truc.
Ouais,
quoi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un chagrin terrible, mais en fait on va s'en sortir.
Et il y a quelque chose qui, bien que brisé et saccagé par la société, et notamment son aspect patriarcal, peut se réparer, se rebricoler entre certaines femmes et certaines générations, Mathilde Bosso. Allez-y.
Non. Oui, je crois beaucoup à la sororité. Je crois beaucoup que les gens, enfin, c'est les femmes, mais c'est l'affaire aussi des hommes, en fait. On peut discuter, on peut dire, même si le poids du silence est encore terrible et qu'il nous faut lutter pieds et poings liés contre ça, parce que il y a plein de femmes, en fait, qui ne savent même pas qu'elles sont des victimes. Enfin, moi, je le vois dans mes classes. Faut déjà le redire, en fait. Non, mais là, tu es une victime, ma belle,
en fait. C'est pas comme ça que ça doit se passer.
Mais oui, mais c'est terrible, en fait. Donc, la tranchée du coupable, c'est pas la tienne. Donc, effectivement, il faut en parler et il faut faire œuvre commune avec les hommes parce qu'il y a une bonté terrible chez beaucoup d'hommes et j'ai eu à cœur, parce que j'avais pas bien réussi dans les saules de la démontrer dans la colline.
On n'a pas beaucoup parlé de l'aspect noir, de l'aspect genre littéraire de la colline. Votre roman paraît aux éditions Cadre Noir. Il y a une enquête. Il y a en effet une scène qui n'est pas une scène de crime, mais qui est une scène horrible qui ouvre le roman. Mais finalement, votre roman, il déjoue beaucoup la seule dynamique d'élucidation des faits. Bon, on sent bien que c'est pas tellement à ça que vous voulez répondre comme genre de critère, Mathilde Bosso.
C'est très vrai, je crois. J'avoue.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse néanmoins dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose du genre noir qui vous intéresse?
Ah oui. Alors, le roman noir, d'abord, j'aime le lire. J'aime ça. J'aime un peu, dans le roman noir, ce que j'aime bien, c'est prendre le pouls de la société. Enfin, tenter de prendre le pouls de la société, d'essayer de l'observer, d'avoir un rapport très direct avec la langue aussi. Dans le roman noir, ça me plaît beaucoup. Par exemple, moi, je sais pas utiliser le mot tel pour faire une comparaison. Chez moi, c'est comme ou c'est rien. Donc, s'il y en a trop, on les gomme. Mais c'est le présent de narration. Le passé simple, c'est impossible. Donc c'est quelque chose de très direct qui vient aussi de l'oralité, de la langue que moi j'ai pu entendre en fait autour de moi.
Et qui diffère en fonction de si c'est Édouard, le mari de Mireille, qui descend aux poubelles, notamment quand Mireille lui demande, ou si c'est un tel qui est pompier, qui vient d'avoir un gamin et qui du coup a un peu du mal à faire avec cette image difficile du du nouveau-né dans la poubelle, ou si c'est, on n'en a pas parlé, mais la présence des procès-verbaux et la manière dont vous rendez compte d'une autre langue qui est celle de la police et des auditions. À chaque fois, vous changez pas seulement de voix, mais aussi de langue, Mathilde Bosso.
Oui. Bah oui, parce que moi, j'écris parce que ça me donne du plaisir. Ça me donne du mal, mais parfois, dans l'effort, on se lave, vous voyez? Et en fait, ça me donne beaucoup de plaisir. Sinon, je n'écrirais pas, je ne sacrifierais pas tant d'heures et tant de choses dans ma vie dans l'écriture. Donc, ça doit me procurer un plaisir. Et ce qui est étrange, peut-être, c'est que ce qui me procure du plaisir, ce sont les contraintes. C'est de me mettre une forme de contrainte dans laquelle je vais pouvoir m'amuser. Par exemple, le procès verbal, c'est très contraignant. Alors là, faut gommer votre style, voilà, votre prison, quoi. On n'est pas là pour ça. Donc là, c'est du direct. Et c'est ça qui m'amuse, c'est de virevolter entre différentes contraintes comme ça et différentes idées qui me tombent dans la tête comme une goutte d'eau grasse d'orage. Et on fait avec parce que mon idée à moi, c'est l'élan. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Mais je pense que je viens d'une famille où on avance, on bouge, on travaille avec ses mains, en fait. Et donc, c'est d'aller de l'avant. Et si j'invente quelque chose d'un peu bizarre, bon, je plante un premier PV et je me dis, mais concrètement, comment tu vas faire ensuite? Ben, c'est pas grave. On avance avec cette idée-là et tu vas devoir trouver ta liberté de mouvement, de danse, en fait, dans cette contrainte-là.
Je le disais, vous allez être l'invité d'une librairie à Lamballe dans les Côtes d'Armor et aussi de plusieurs manifestations au sein du festival Quai du Polar à Lyon et dans les alentours. Ces histoires de génération, d'avortement clandestin ou pas, de maternité non désirée, de difficultés relationnelles entre les générations, elles sont très largement partagées, Mathilde Bosso. C'est partout en France, c'est dans toutes les familles. Est-ce que vous trouvez ça dans les dialogues que vous avez avec vos lecteurs et vos lectrices ?
Parfois, mais oui, quand j'ai rencontré notamment des lectrices, hein, plutôt des femmes, j'ai eu... C'est compliqué, parce qu'elles sont toujours encarcanées dans une forme de silence ou dans une forme de pudeur, vous voyez. Mais je sens bien, en fait, à travers quelques mots déposés, quand on vous chope la main qui est en train d'écrire et de dédicacer, qu'on la serre fort et quand on vous dit « merci, il faut le dire, ça, il faut en parler de ça ». Il y a ce mot « honte » parfois qui revient souvent. Alors je me dis que c'est sans doute une goutte d'eau dans l'océan, mais en tout cas, c'est ma goutte à moi.
Ça a toqué au bon endroit, quoi. Le book club continue. C'est l'heure de l'agenda aujourd'hui. Vous pouvez nous envoyer d'ailleurs des informations autour d'événements, de rendez-vous qui ont trait au livre et à la lecture. L'adresse mail du book club, lebookclub@radiofrance.com. C'est aussi à cette adresse que vous pouvez nous écrire tout court. Deux informations. D'abord, le festival de littérature jeunesse Livre comme l'air, qui avait commencé le 11 mars de cette année, qui touche bientôt à sa fin. Ça dure jusqu'au samedi 4 avril. C'est un festival qui explore la figure du loup dans la littérature et les illustrations jeunesse, ses diverses formes et caractéristiques, ses réinventions, ses détournements. L'invité d'honneur cette année, c'est Michel Van Zeveren, maître dans le domaine de la réinvention des figures animales emblématiques des imaginaires enfantins. Ça se passe dans le réseau des médiathèques de Roissy, Pays de France, et tous les lieux partenaires. Le salon clôture du festival aura lieu ce samedi 4 avril de 10h à 18h à l'espace Pierre de Coubertin, à Goussainville, dans le Val d'Oise. Pardon, j'en perds les pédales parce que j'ai une super anecdote autour de Goussainville. Je peux pas la donner là. Par ailleurs, ce mois-ci, le Centre Pompidou s'associe au Festival du Livre de Paris pour proposer son événement littéraire annuel, le Cabaret Extra. La Galerie 2 du Grand Palais se transformera en manifestation culturelle mêlant performances, lectures et spectacles immersifs. Une véritable invitation à un voyage sensoriel de 3 jours qui mettra à l'honneur la littérature contemporaine sous toutes ses formes. L'entrée est gratuite, c'est au Grand Palais du 17 au 19 avril. C'est donc l'occasion de vous dire que le Book Club sera en direct et en public le vendredi 17 avril au salon Livre Paris. Je regarde Vivien, qu'est-ce que je dois dire d'autre? 15h, vous venez un tout petit peu avant. Et notre invité sera, je peux le dire, Marion Fayolle. Voilà.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue au grand jeu des pages musicales. Ça consiste, Mathilde Bosso, à chercher de la musique dans les livres. Peut-être vous pouvez proposer ça à vos élèves. Le principe, en tout cas, pour nous, nos auditeurs et auditrices connaissent, l'idée, c'est de photographier un passage de livre à chaque fois qu'il y a l'évocation d'un air musical dans un texte. Ils nous l'envoient et du coup, on a une collection comme ça de pages musicales qu'on lit en fin d'émission. Et sauf erreur de notre part, ni Julie ni moi n'avons trouvé de la musique dans la colline.
Ah bon ?
Ah.
Ah. Summertime.
Ah, ok.
À un moment donné, sur la colline, la grand-mère et Jacques écoutent Janis Joplin.
Oh là là. Bon, donc on est passé à côté. Mais c'est pas grave, parce qu'on a une autre proposition d'une auditrice qui nous a envoyé un extrait de Tropique de la violence de Natacha Pana. C'est un roman où on retrouve le thème de la maternité, de la misère, de la pauvreté, l'omniprésence de la violence, et le tout dans un récit choral, comme dans la colline. On se quitte donc avec un extrait de Tropique de la violence de Natacha Pana. C'est Pablo, notre auditeur, qui a envoyé cet extrait. Quand je prends la barge en fin d'après-midi, je regarde à nouveau le fond de l'eau, les femmes sur le bateau, les îlots et la colline de Kawer, où le bidonville s'étend comme une pieuvre. Je vois ces petits errer sans but, jouant sur la place du marché, et je pense aux femmes enceintes, arrivées le même jour que Moïse, sous la pluie, et aussi à toutes celles qui sont arrivées avant, qui arriveront après. La maternité de Mamoudzou est devenue la plus grande de France. Qu'ont-elles fait de leurs petits? Les ont-elles laissés à un grand frère, un oncle, une tante? Que deviendront ces enfants à l'adolescence? Je ne sais pas. Dehors, une roussette change d'arbre et le battement de ses ailes me rappelle une autre vie. Je souris. Pendant que je range et que Moïse construit, m'a-t-il dit, une ville entière avec ses Legos, nous écoutons un peu de musique. Je mets Barbara, comme ma mère, autrefois. C'est étrange comme ça nous rattrape, ces choses-là. Quand vient l'aigle noir, nous attendons la partie que nous préférons de cette chanson. Et là, en chœur, moi dans la cuisine, lui dans le salon, nous entendons, à voix haute, dit l'oiseau. Oh, dis, emmène-moi. Retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la nuit. À son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors.
Merci beaucoup, Mathilde Bosso, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Pour évoquer La Colline, parue aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Noir et qui veut lire le précédent roman, Les Saules, paru aux éditions du Point. En poche, il avait gagné le Grand Prix de littérature policière 2025. Au son, c'était Ludovic Auger. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Julie Gastal, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Lou Quevauvillier et Alexandra Laebegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.